Ça y est, les magasins se sont lancés en mode Noël et les parents commencent à réfléchir, à chercher, à dépenser pour donner le meilleur cadeau possible pour leurs enfants dans quelques semaines. Noël et les anniversaires font ressortir cet instinct universel que tout parent, heureusement, veut donner le meilleur à son enfant. Jésus même a dit, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors je pars de ce postulat ce matin. Vous savez, vous voulez donner des bonnes choses à vos enfants. Alors comment faites-vous là, Noël à s'approche? Vous commencez à acheter des cadeaux pour vos enfants. Chez nous, c'est un défi. Comment vous faites pour choisir un bon cadeau pour votre enfant? Peut-être vous partez de ce qu'il demande. Ou votre famille fonctionne peut-être avec des listes de Noël. Mais parfois, vous ne donnez pas exactement ce que votre enfant demande. Si votre enfant, votre fils de 14, 15, 16 ans demande un Lamborghini, vous donnez peut-être un Lamborghini jouet et pas un vrai. Ou vous donnez autre chose. Certains cadeaux, oui, sont trop chers ou sont de mauvaise qualité. Donc, vous ne donnez pas exactement ce que votre enfant demande. Souvent, en tant que parent, vous savez donner même mieux. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, dit Jésus. Et ce matin, et à l'approche de Noël, j'aimerais lancer cette réflexion. Pensez à offrir à vos enfants, non seulement à Noël, mais tout au long de la vie, le cadeau d'une éducation chrétienne. Et même s'ils ne l'expriment pas ainsi, même s'ils ne vont pas vous le demander, ce Noël, c'est au fond ce que les enfants veulent et apprécieront le plus. Comme le copain de JP a bien constaté, des fois, les enfants reconnaissent, soit maintenant, soit plus tard, que c'est ce qui est de plus précieux. Les éduxpés de la salle savent très bien, lorsqu'il y a des enfants turbulents, parfois qu'il faut gérer. En fait, cette turbulence est souvent une manière de demander l'attention et l'affection qu'ils ne reçoivent pas forcément des parents. Cette turbulence, c'est leur manière de poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime suffisamment pour me donner un cadre, pour me donner des limites, pour me donner une instruction, pour me donner une correction, parce que je ne le trouve pas chez moi. Et donc après commence la turbulence, mais c'est un cri de cœur. Instruis-moi, corrige-moi, cadre-moi. Je sais que c'est la preuve de l'amour. Et encore ce Noël, si vous voulez prouver votre amour à vos enfants, ce serait de leur offrir le cadeau d'une éducation chrétienne. Je vous lis un verset, c'est Éphésiens 6, verset 4. Juste un verset qui s'affiche sur l'écran, vous l'avez dans votre Bible, Éphésiens 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voici ce qui sera notre programme jusqu'à Noël. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Paul donne ici la grande mission des parents, la grande vocation. Élever les enfants, c'est notre rôle, c'est notre mission, c'est la tâche qui nous incombe de la part de Dieu. Et dans ce verset, il y a un volet correction, il y a un volet instruction, et puis un volet même irritation, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, ce matin, je propose d'aborder le volet instruction. On parlera plutôt de la correction. Mais nous voulons élever les enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, l'instruction selon le Seigneur. C'est quoi de les instruire selon le Seigneur? Pour ma part, je trouve que ce verset est étonnamment succinct. C'est un des seuls versets du Nouveau Testament qui s'adresse directement aux parents. Pour leur dire comment faire. Et donc, ça m'intéresse. Comment faire? Et ça dit, instruisez-les selon le Seigneur. Voilà, vous savez tout. Vous savez autant que moi. Instruisez-les selon le Seigneur. C'est tout? Selon le Seigneur. Moi, j'aurais voulu plus de détails. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que dans le contexte de cet épître, nous avons une richesse de détails concernant le Seigneur. Qui est ce Seigneur et comment vivre selon lui? Dans son livre « Vers une vision renouvelée », quelque chose comme ça, David Paulussen, et il dit que l'épître aux Éphésiens suffirait à lui seul comme un manuel de relation d'aide. Et on pourrait dire presque la même chose en ce qui concerne les parents. L'épître aux Éphésiens pourrait à lui seul être un manuel pour les parents. Donc, on va voir, en pensant au contexte d'Éphésiens, en pensant à qui est ce Seigneur, selon Paul, nous allons pouvoir développer un enseignement et une éducation chrétienne. Donc, ce que je vous propose ce matin en tant que parents, c'est d'enseigner vos enfants, tout d'abord, la vraie définition de la réussite, selon le Seigneur. Ensuite, la vraie histoire du monde, selon le Seigneur. Je vous invite à leur enseigner le vrai message de la Bible, selon le Seigneur. Le vrai secret du bonheur, selon le Seigneur. Et enfin, enseigner-leur la vraie famille de Dieu, selon le Seigneur. Voyons ces choses. La vraie définition de la réussite, selon le Seigneur. À plusieurs reprises dans cet épître, Paul, il va dire ce qu'il prie pour ses chrétiens. Il dit le contenu de ses prières. Et de là où sont placées ses prières, en début d'épître, et puis à la fin de la première partie, chapitre 3, à la fin de chapitre 3, ses prières reflètent clairement sa priorité, son souhait ultime pour eux. Pour ceux qui ont fait la formation Creuser l'Écriture, vous savez que ces prières, ce qu'il demande dans ses prières, touche au cœur de ce qu'il veut et la raison pour laquelle il écrit cet épître. Et son vœu, sa prière suprême pour ces chrétiens, c'est qu'ils puissent connaître Dieu. Selon Paul, c'est ça la réussite de la vie chrétienne, c'est ça la réussite de la spiritualité. Je vous lis Éphésiens chapitre 1, verset 17. Donc il dit, je prie pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voici la grande prière, la grande priorité pour Paul, pour ces chrétiens, qu'ils puissent avoir un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Il prie la même chose à la fin de chapitre 3, que vous puissiez comprendre avec tous les saints l'amour de Christ et d'être rempli de la plénitude de Dieu. Donc ceux qui veulent vraiment qu'ils connaissent Dieu, son amour est en Christ. Pour Paul, selon Paul, c'est ça réussir la vie. C'est la chose qui apporte le plus de joie, le plus de sens, le plus de récompense, le plus de stabilité, le plus de richesse. Mais est-ce notre définition de la réussite? Dans son livre « Parents centrés sur l'Évangile », que je vais citer à plusieurs reprises ce matin, Tim Chester pose ces questions. Que voulez-vous pour vos enfants? Une bonne éducation? De nombreuses activités extrascolaires? Scoutisme, football, danse, cours de musique, club de dessin, la dernière console de jeu? Qu'espérez-vous pour vos enfants? Une belle carrière, un style de vie agréable, la sécurité et la santé, être propriétaire d'une maison, un mariage heureux, des enfants. Oui, la plupart de ces choses, je les veux. Mais attention, nos véritables valeurs se dévoilent souvent à travers nos attentes envers nos enfants. Le dimanche à l'église, nous chantons que rien n'est plus formidable que de connaître Jésus. Mais nos priorités et nos attentes pour nos enfants montrent ce qui compte le plus pour nous dans la vie. Le parcours scolaire, la carrière, le statut social, les compétences. Nous nous inquiétons souvent à juste titre de l'influence que le monde exerce sur nos enfants. Mais nous aussi, nous influençons nos parents. Or, notre influence peut être tout aussi contraire aux priorités de l'Évangile. Je suis rentré cet été aux États-Unis pour voir l'église de mes parents. Je parlais avec un pasteur. Il dit l'église a connu des évolutions. Au fil des années, la population est beaucoup plus mixte. Je viens de Silicon Valley, donc beaucoup de gens du monde entier qui viennent pour contribuer à la technologie. Donc l'église a une population grandissante, notamment de Chinois et d'Asiatiques. Et il dit maintenant, c'est une réflexion intéressante. Quand on essaie de programmer les activités pour les enfants, les Asiatiques, les Chinois ne veulent pas ça pendant la semaine parce que ça freine l'éducation scolaire. Ils ne veulent pas les activités de l'église pendant la semaine. Mais les autres, ils ne veulent pas les activités le week-end parce que ça touche au sport. Donc je pose la question aux Français, quelle est la solution? Quelle priorité, quelle est la définition de la réussite pour nos enfants? Si vous cherchez toutes ces choses sans Christ, vous perdrez Christ et toutes ces choses. Si vous cherchez Christ, vous obtiendrez Christ Dieu et aussi toutes ces choses vous seront données par-dessus selon la sagesse de Dieu. Donc la vraie définition de la réussite, selon le Seigneur, enseignez vos enfants cela. Enseignez-leur aussi la vraie histoire du monde, selon le Seigneur. Racontez-leur l'histoire du monde, la vraie, selon Éphésiens. Le Dieu qui a créé toutes choses, chapitre 3, verset 9, dans nos propres vies. Le péché aussi qui a entraîné la mort et la souffrance, il en parle beaucoup en chapitre 2. Ce péché qui explique que tout est disloqué, tout est déchiré, tout est désuni, y compris nos propres cœurs et le cœur de nos enfants, qui sont enclins au mal et à la rébellion. Paul nous appelle tous des fils de la rébellion. Mais ensuite, la venue de Jésus, sa mort, sa résurrection et son projet de restaurer et de réunir toutes choses, ce qu'il est en train de faire, il est en train de restaurer toutes choses, de réunir toutes choses. On le voit en partie dans une église, mais le projet éternel, c'est un monde réuni parfaitement dans la paix autour de Dieu et de sa gloire. Vous avez ça dans chapitre 1 notamment. Ça, c'est l'histoire du monde. La création de Dieu, la chute, l'arrivée du péché, la venue de Jésus et la restauration que nous espérons. Et je trouve, en tant que parent, que cette histoire-là apporte la meilleure explication de ce qui ne va pas avec le monde, mais aussi de ce qui ne va pas avec moi. Et aussi, elle offre la meilleure solution à ce problème. Un Jésus tout-puissant ressuscité qui peut garantir un jour la réunion de toutes choses. Ça, c'est la vraie histoire du monde. On entend d'autres versions qui influencent l'éducation de nos enfants. Hein. L'homme qui est naturellement bon est devenu le socle des méthodes éducatives de nos jours. Ce qui conduit à toutes sortes de conceptions de la discipline, de l'instruction. Mais la vraie histoire du monde dit autre chose sur nous, sur nos cœurs, sur le problème. Et cette vraie histoire du monde, ça va vous aider aussi à dépister, à déconstruire les erreurs, les demi-vérités, les mensonges qui circulent souvent de nos jours. Un petit échantillon. Si tu as envie, tu as le droit. Il suffit de suivre ton cœur. À toi de choisir ton identité. Si tu es né comme ça, tu ne puis rien. Que vous entendez ces choses autour de vous de nos jours. Ça, c'est l'éducation que beaucoup reçoivent. Mais vous connaissant la vraie histoire du monde, vous connaissant l'Épître aux Éphésiens, vous avez des éléments, des réponses. Si tu as envie, tu as le droit. Mais Éphésiens va dire, attention, nous avons des envies trompeuses, des convoitises trompeuses qui peuvent nous conduire vers le mal. L'envie de faire quelque chose ne justifie pas forcément sa moralité. Il suffit de suivre ton cœur, mais Éphésiens dit, nos cœurs sont plongés dans les ténèbres et ont besoin d'être éclairés. Donc suivre son cœur, son propre cœur, n'est pas toujours le meilleur conseil. Suivre le cœur de Dieu ou suivre la vérité. À toi de choisir dans ton identité. Éphésiens va rappeler que notre vraie identité est en Christ. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous connaît le mieux, il nous a fait d'une certaine manière. Nous sommes son ouvrage et notre identité va venir de lui, de notre Créateur. Si tu es né comme ça, tu ne puis rien. Oui, dans un sens, nous sommes tous nés pécheurs. Donc il y a des envies, des inclinaisons, des pulsions qui relèvent du péché, de notre nature pécheresse. Et en nous-mêmes, on pourrait, oui, il n'y aura pas d'espoir. Mais Jésus a une capacité, une puissance de transformation. Donc on ne met pas tout sur le dos de comment je suis né. Je peux aussi, en comptant sur Dieu, me voir changer par sa puissance et devenir la personne qu'il attend de moi. Je peux espérer un jour, même si je lutte aujourd'hui, je peux espérer un jour être enfin une personne parfaite. Telle est la vraie histoire du monde, selon Éphésiens. Enseignez-leur aussi le vrai message de la Bible, selon le Seigneur. Le vrai message de la Bible, c'est la bonne nouvelle de Jésus. le message de grâce pour les pécheurs tels que nous sommes, les pécheurs qui se repentent. Il avait dit, le vrai message de la Bible se résume grandement dans ces versets en chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est le vrai message de la Bible qui est illustré partout dans l'Ancien Testament et qui est expliqué dans les enseignements de Jésus, qui est appliqué dans les Épîtres. Vous avez c'est une seule histoire, un seul message. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais même les familles chrétiennes peuvent ne pas saisir le vrai message de la Bible et plutôt transmettre une éducation qui met l'accent sur le comportement extérieur, méritoire. On ne le dit pas autant de mots, mais des fois nous transmettons des vérités telles que « Si tu as un comportement extérieur correct, tu es une bonne personne. Si tu es sage, je t'aime. Si tu n'es pas sage, je t'aime plus. » Ou « Tant que tu n'es pas aussi mauvais que lui ou que eux là-bas, tout va bien. » Ou parfois même « Tu dois mériter mon amour et mon attention par ton comportement, sinon... » Tu ne m'intéresses pas. Est-ce là le vrai message de la Bible? Non, loin de là. D'un autre côté, la grâce ne veut pas dire aucune correction. Beaucoup de parents confondent la grâce avec l'absence de règles et de corrections. Mais comme l'illustration de JP nous a déjà montré avec son copain, les cadres et les limites et les corrections, ce n'est pas un manque d'amour ou de grâce. Mais ça, Vincent vous en parlera plus tard, dans 15 jours. Et puis ce message de grâce, le vrai message de la Bible, la grâce se raconte non seulement par vos paroles, mais aussi par vos actes. Faites-vous enseigner et vous illustrer l'Évangile au quotidien bien plus que vous le pensez. D'ailleurs, dans le contexte immédiat d'Éphésiens 6, juste avant, il y avait Éphésiens 5. Naturellement. Et à la fin du chapitre 5, une grande partie du chapitre 5 rappelle que le couple, le mariage, est une illustration, certainement une des plus grandes, une des meilleures de toute la Bible, une illustration de l'Évangile. Le couple est une image de ce message de grâce, le vrai message de toute la Bible, le mystère de toute la Bible, de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle. Eh bien, le couple, le mariage, en est une des meilleures illustrations. Donc, encore une citation du livre. Il nous encourage, parents, premièrement, pensez à la façon dont vous vous adressez à votre conjoint. Cela dans le cadre de l'éducation des enfants. Mais pensez à la façon dont vous vous adressez à votre conjoint. Votre manière de lui parler manifeste-t-elle du respect, de l'amour, de la grâce? Ah, ton père ne sert à rien. Ou bien, n'écoute pas ta mère, elle n'y connaît rien. Mon fils, le mariage est un boulet. Non, le mariage est une image de la relation de Christ avec l'Église. Les enfants apprennent le règne libérateur de Jésus quand ils voient leur mère faire passer la volonté de son mari avant la sienne. Ils apprennent combien Christ aime l'Église quand ils voient leur père, après une dure journée de travail, servir leur mère. Vos enfants écouteront également vos silences glaciaux. Cela enseigne-t-il vraiment l'Évangile de grâce? Ça, c'est à la manière dont on se parle en tant que conjoint. Pensez aussi à la manière dont vous parlez de la souffrance, des échecs et des crises. C'est souvent dans ces moments que surgissent nos vraies convictions. Nous rouspétons, nous nous apitoyons sur notre sort, nous sommes en colère, nous éprouvons de l'amertume, nous nous sentons frustrés. Que communiquent ces attitudes sur notre volonté de nous soumettre à la Seigneurie de Christ ? Et de raconter le vrai message de la Bible. Donc oui, racontez-leur le vrai message de la Bible, cette bonne nouvelle de grâce, et puis vivez-le, illustrez-le, jour après jour. Enseignez-leur aussi le vrai secret du bonheur selon le Seigneur. Ce secret du bonheur, nous le trouvons tout au long de cet épître, notamment dans l'attitude et la personne de l'apôtre Paul qui écrit. Il faut savoir qu'il est en prison. Mais tout au long de cette lettre, il est très encourageant, très encouragé. Il est en prison, mais il se réjouit parce qu'il sait que c'est pour la meilleure cause. C'est pour la cause de la gloire de Dieu, pour l'évangile. Et donc, à plusieurs reprises, il leur dit, écoute, ne vous faites pas des soucis pour moi. Moi, j'ai le privilège d'annoncer la solution aux problèmes de ce monde. J'ai le privilège d'annoncer le pardon en Christ, la réconciliation avec Dieu et la réconciliation les uns avec les autres. Tout ça grâce au Seigneur. Donc, je vais très bien. Et nous voyons en cela un peu le secret du bonheur. Pour Paul, le secret du bonheur, c'est de vivre pour les autres, de vivre pour les autres, de les servir, de les aimer. En chapitre 1, il célèbre à quel point Dieu lui-même est béni et heureux, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il célèbre à quel point Dieu est béni et heureux parce que c'est un Dieu qui a aimé, c'est un Dieu qui a pardonné, c'est un Dieu qui s'est donné. Donc Dieu est béni, il est heureux parce qu'il donne, il aime et il pardonne. Et puis en chapitre 5, quelques versets plus tard, il dit, bon, maintenant, devenez des imitateurs de ce Dieu-là et marchez dans l'amour. Ça, c'est le vrai secret du bonheur. Aimer les autres, servir les autres, se donner pour les autres. On était plusieurs cette semaine à aller voir Ibrahim Malouf en concert, un fameux trompettiste qui a un lien avec notre bassiste ce matin, un lien de parenté. Et je crois que la partie que j'ai préférée du concert, c'était la phrase d'ouverture. Là, il y avait un jeu de lumière, de fumée, tout est silencieux. Et puis cette phrase retentit dans la salle. « Forgiveness is the foundation of a meaningful existence. » Bon là, j'ai fait une fleur pour l'équipe traduction. Forgiveness is the foundation of a meaningful existence. Le pardon est le fondement d'une vie pleine de sens. Étonné d'entendre cette phrase. Ouvrir le concert. Le pardon est le fondement d'une vie pleine de sens. Et oui, ça fait partie des secrets du bonheur, d'être pardonné, de savoir pardonner. Et en cela, oui, notre instruction vise non seulement les connaissances, certaines de ces choses jusque-là parlent des connaissances, mais notre instruction vise le caractère de nos enfants. Et cette instruction-là est parfois prenante, constante, fatigante. Désapprendre l'égoïsme et apprendre l'amour et le soin des autres. Vous savez, tout peut devenir sujet à dispute dans un foyer. Non, moi, je veux l'assiette bleue. Non, c'est moi devant. Non, c'est moi qui l'avais avant, le jouet. Non, c'est pas moi qui l'ai sorti, c'est lui, je le range pas. Heureusement, vous n'entendrez jamais ces phrases chez Family Black. C'est faux. Donc ce sont aussi des moments pour enseigner le vrai secret du bonheur. Mais cette instruction-là est difficile parce que nous, parents, nous sommes souvent peu avancés dans le domaine. Et des fois, c'est nos propres égoïsmes qui font qu'on ne fait pas l'effort d'enseigner ou de reprendre ou de corriger. Heureusement, quand même, la vie de parent, être parent, c'est de les découvrir, parce qu'un parent, c'est déjà souvent, il faut se sacrifier, il faut se donner pour les autres, et puis, mais on découvre qu'il y a un bonheur là-dedans aussi. Donc oui, vous êtes bien placés pour connaître le vrai secret du bonheur, c'est de vivre pour les autres. Mais c'est tout un apprentissage au quotidien, je le sais. Enfin, enseignez-leur la vraie famille de Dieu selon le Seigneur. Dans cette partie de la lettre, Éphésiens 6, on a lu un seul verset ce matin, mais dans cette partie de la lettre, effectivement, Paul met un focus sur vraiment les foyers individuels, les couples d'abord, les enfants, les foyers. Mais dans l'ensemble de sa lettre, le thème majeur de cette lettre, il parle surtout de la grande famille de Dieu. Il commence la lettre en chapitre 1, verset 5, disant « Les chrétiens, nous sommes ces enfants d'adoption, tous ». Nous sommes unis en Christ, nous sommes frères et sœurs en Christ. Il va en parler souvent dans le chapitre 2 et 3, comment les juifs et les non-juifs, souvent des foyers qui ne se rendaient jamais chez les uns et les autres, eh bien il va rappeler que les juifs et non-juifs, vous êtes une même famille en Christ. Vous avez maintenant le même Père, le même Seigneur. Vous avez le même ADN spirituel, vous avez le même message de grâce. Vous êtes sauvés de la même manière. Vous partagez la même histoire du monde. Vous partagez le même vrai message de la Bible. Donc ça fait de vous une même famille. Et cette vérité-là aussi doit pénétrer nos foyers. Nous faisons partie d'une famille plus grande. Encore une citation. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière nos engagements chrétiens pour fuir nos responsabilités envers notre famille biologique. Certes, je répète. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière nos engagements chrétiens pour fuir nos responsabilités envers notre famille biologique. Mais nous ne pouvons pas non plus laisser les engagements familiaux, humains, nous empêcher de suivre Christ. Donc il y a deux extrêmes à éviter. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière les engagements chrétiens pour abandonner la famille, mais nous ne pouvons pas non plus laisser les engagements familiaux, humains, nous empêcher de suivre Christ. Un vieil adage africain dit « il faut un village pour élever un enfant ». Nous pourrions dire « il faut toute une église pour élever un enfant ». Alors, si vous voulez réussir l'éducation chrétienne de vos enfants et leur offrir un cadeau, pratiquez l'hospitalité, invitez les gens, invitez les célibataires, invitez les jeunes, invitez vos voisins autour de vous ce matin, invitez des gens d'autres cultures. Et voilà, vivez l'Église ensemble, et ça serait une excellente éducation pour vos enfants. Savez-vous que vous êtes le cours de géographie de nos enfants? Parce que lorsque mon épouse invite, reçoit à la maison, ça sort le globe, vous venez de différents coins, différentes régions de la France, beaucoup différentes régions du monde, et puis on regarde la carte, on s'intéresse à tel ou tel pays. Vous êtes le cours de géographie de nos enfants. C'est ça aussi l'Église, c'est ça la richesse de l'Église. Donc, si vous voulez réussir l'éducation, offrez, enseignez-leur la vraie famille de Dieu qui dépasse juste notre famille. Et on fait partie de cette belle famille. Donc voilà, si vous voulez réussir l'éducation de vos enfants, en tout cas l'instruction à donner, selon le Seigneur, je me suis inspiré de l'Épître aux Éphésiens ce matin, enseignez-leur la vraie définition de la réussite, la vraie histoire du monde, le vrai message de la Bible, le vrai secret du bonheur et la vraie famille de Dieu. Bien sûr, j'ai conçu ce message non seulement pour les parents, mais pour tout le monde, puisque c'est ce que Dieu, le Père, veut nous enseigner lui-même à nous tous. Et nous devons tous apprendre la vraie définition de la réussite, la vraie histoire du monde, le vrai message de la Bible. Le vrai secret du bonheur est la vraie famille de Dieu selon le Seigneur et selon sa parole. Heureusement, pour cette tâche, vous n'êtes pas livré à vous-même. Le Père lui-même nous enseigne et nous instruit, et c'est ce que nous avons célébré ce matin. Il nous aide, il a promis, il y a une des promesses de la Nouvelle Alliance, ils seront tous enseignés de Dieu, tous ses enfants sont enseignés de lui pour savoir comment marcher dans sa volonté. Il nous a donné sa parole. Bien plus, il enseigne cette parole au plus fond de notre cœur par son Saint-Esprit. Donc le Père lui-même s'engage à vous enseigner et vous instruire et vous révéler ces choses. Alors repensons à toutes les bénédictions que nous avons en Christ ce matin et nous verrons que nous avons de quoi offrir le meilleur cadeau possible à nos enfants. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, tu vois l'effort que nous voulons et nous voulons dépenser pour aimer nos enfants et leur donner le meilleur. Je te rends grâce pour tous les parents de cette salle. Je te rends grâce pour tous les enfants de cette salle qui ont reçu quelque chose de leurs parents. Mais nous voulons reconnaître qu'en tant que parents, nous ne savons pas toujours donner le meilleur. Nous mettons l'accent peut-être sur d'autres choses et nous te prions de nous aider en ce temps de Noël, mais aussi tout au long de l'année à transmettre et une éducation qui est selon toi, selon le Seigneur. Nous te remercions de ce que toi-même, tu es prêt à nous enseigner. Je te prie pour toute personne dans cette salle, que tu, toi-même, tu te charges de l'éduquer, de l'enseigner, de nous instruire. Seigneur, si nous avons besoin de mieux comprendre la vraie et la grande histoire de la Bible, de ton amour, de ta grâce en Jésus-Christ, nous te prions de nous l'enseigner fidèlement à travers peut-être des chants que nous avons chantés ce matin, à travers la lecture de ta parole, comme l'Épître aux Éphésiens, à travers les discussions que nous pouvons avoir avant, après le culte. Nous te prions que tout le monde puisse repartir avec le vrai message de la Bible, avec la vraie définition de la réussite ce matin, et que nous puissions vivre pour ta gloire. Je te rends grâce, je te prie une grâce de nous aider en tant que parents. Nous sentons souvent faibles, démunis, mais nous te remercions de ce que ta parole et ta présence dans nos vies peuvent nous épauler et nous transformer. Et comme nous avons chanté, tu es vraiment fidèle de génération en génération. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de toi et de tes promesses. Et nous te louons au nom de Jésus-Christ. Amen.